Chame au fourneau.
Ça va, Racoco.
Chame au fourneau.
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 Ça va, Racoco.
Bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue sur Radio Cham pour notre émission Chame au fourneau. L'émission qui met à l'honneur les saveurs et les voix. Aujourd'hui, avec mes camarades de première bac pro cuisine, nous recevons un invité spécial, Loïc Ballet, chroniqueur culinaire, un homme de radio. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Nous allons vous poser quelques questions sur votre parcours, vos activités de journaliste culinaire. Je laisse la parole de suite à Calvin.
Bonjour Loïc.
Bonjour Calvin.
Pouvez-vous vous rappeler à nos auditeurs les émissions culinaires passées et actuelles que vous avez animées à la télévision et à la radio?
Ah, alors il y en a pas mal, mais on va dire que ce pourquoi les gens me connaissent beaucoup, c'est Télématin. C'est pour ça que j'ai les yeux un peu tirés, puisque c'était ce matin, entre autres, où je suis chroniqueur gastronomique depuis, on va dire, 12-13 ans, ouais, à Télématin, en raison de 2 à 3 rendez-vous par semaine où on part rencontrer des producteurs, mais aussi des chefs, et pas que, on va aussi dans plein d'endroits, mais on est toujours autour de ce qui nous nourrit, autour de la bouche, autour du ventre, voilà. Et puis j'ai eu la chance de commencer avec... un monsieur que vous, peut-être vous ne connaissez pas parce que vous êtes tous assez jeunes, mais qui s'appelle Jean-Pierre Coff. D'après sur Internet, et vous verrez qu'à l'INA, il y a plein de vidéos, mais Jean-Pierre Coff a été un des premiers chroniqueurs gastronomiques à dénoncer la malbouffe et la bouffe industrielle dans les années 80-90, avec une phrase qui était assez mythique, qui disait « c'est de la merde », avec une scène en plateau où il jette une saucisse en disant « mais ça, c'est de la merde », et qui a eu le mérite de foutre un pavé dans la mare et de faire prendre conscience à plein de gens à ce moment-là où la modernité pour ces gens-là était le plat préparé, et ben de leur faire prendre conscience que le plat préparé était peut-être moderne, mais pas forcément bon. Voilà.
Merci Calvin et merci Loïc. Une autre question pour nous éclairer sur la spécificité de votre travail, Justine.
Bonjour, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes venu à mêler journalisme, cuisine et radio ou télé?
Ah, alors ça c'est... En vrai, il n'y a pas vraiment d'école pour ça, en fait. Il y a des écoles pour devenir cuisinier, il y a des écoles pour devenir maître d'hôtel, il y a des écoles pour devenir journaliste, mais journaliste culinaire, on le devient... je pense qu'on peut pas le devenir sans passion, sans envie de goûter et de manger, parce que ça reste le principal de mon quotidien, de manger. Alors, ça peut être super chouette, mais il faut manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ce qui est pas mal aussi, mais moi, j'ai pas trop ce souci-là, je suis gourmand tout le temps. Donc, ça va. Mais on va dire que petit, j'ai beaucoup aimé cuisiner avec mes parents. J'ai eu une nounou qui était très âgée et qui me faisait des recettes qui étaient plutôt de Haute-Loire. Moi, j'étais à Saint-Étienne et qui faisait des recettes au beurre, à la crème, cuisinées, préparées. Donc, j'ai ces souvenirs de ça, de cuisine, et j'ai toujours aimé cuisiner. Et puis après, je pense que voilà, j'ai fait une école de journalisme et j'avais envie de comprendre. J'ai cette curiosité au quotidien qui m'anime. Et donc j'ai allié les deux, donc la curiosité en cuisine, c'est comment manger, comment mieux manger, comment mieux se nourrir, comment comprendre aussi ce qu'on mange en fait, c'est un peu ça l'idée, et je crois que c'est quelque chose qui m'anime moi depuis 15 ans, mais qui est de plus en plus dans le quotidien des gens, et même des jeunes, ce qui n'était pas trop le cas quand moi j'ai commencé, j'avais que des copains autour de moi qui n'allaient manger que dans les fast-food et tout ça, et qui se souciaient pas trop de ce qu'ils mangeaient. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes sont encore plus renseignés. Je rencontre des jeunes qui me disent « bah moi, je suis végane, moi, je mange pas de ça, moi, je mange ci, au contraire, je suis pour telle cuisine ou telle cuisson ». Et en fait, je trouve ça génial parce que c'était pas forcément le cas il y a 15 ans, en fait.
Voilà. Merci, Justine. Tu as une autre question, non, Evan?
Bonjour. Pour vous, que permet la proximité avec les producteurs et autres chefs professionnels rencontrés lors de vos voyages?
Alors professionnel, c'est vraiment tu précises professionnel, mais en fait l'avantage de ce métier, c'est que c'est comme vous quand vous serez en cuisine, votre métier il s'arrête jamais quand on a fermé la porte de la cuisine. En fait, il commence même à ce moment-là. C'est quand vous êtes en cuisine, vous êtes la tête dans le guidon. Et typiquement, moi, je c'est pas forcément quand je suis en tournage que je rencontre le plus de gens. Et c'est pour ça que souvent, quand j'arrive dans un endroit, j'arrive la veille et je dis « Ah, mais tiens, si on mangeait ensemble ou si on se retrouvait ?» Parce que c'est le moment où, en fait, bah, la caméra ne tourne pas. C'est un peu comme vous, on n'est pas en cuisine. Donc là, on a l'esprit libre et on peut se parler, en fait, comme on se parle là, en fait. Et c'est vrai que ce métier, il se fait... ça, c'est une sorte de sacerdoce. C'est-à-dire que où que je sois, je rencontre des gens qui font à manger ou du moins, je m'y intéresse. Et donc, j'apprends tous les jours, en fait. Et je rencontre tous les jours des sujets où j'ai la chance d'être pendant 4 jours au sommet de l'élevage et j'ai rencontré des dizaines de personnes, soit qui m'arrêtent, soit que moi j'arrête, Et puis souvent les gens qui m'ont donné des tuyaux, qui m'ont renseigné sur un produit ou sur un producteur ou sur un chef, m'en amènent d'autres en fait aussi. Donc le secret, je pense que c'est de donner son téléphone portable dès qu'on peut et d'être ouvert en fait, parce que c'est l'ouverture qui nous nourrit.
Sur cette proximité, pourquoi pas montrer ça par exemple dans un plateau télé, vraiment venir sur le terrain et montrer à ceux qui vous regardent.
Alors, si tu regardes Télématin, mais peut-être pas, je suis sur le terrain en fait. C'est mon travail de tous les jours et c'est vraiment un de mes chevals de bataille et de combat, c'est de rester sur le terrain. Je dis c'est un combat parce que c'est pas tous les jours facile aujourd'hui, parce que là on est sur un média, une web radio, qui est un média plutôt récent et moderne. Et moi, je fais partie des vieux médias, c'est-à-dire la télévision, qui est encore au bout d'une télécommande. Et donc, résultat, nos vieux médias sont un peu secoués ces temps-ci, et donc il y a beaucoup d'économies dans notre quotidien qu'on nous demande de faire. Et typiquement, ce qui coûte cher, c'est d'envoyer un journaliste sur le terrain, parce que c'est un billet de train, c'est un billet d'hôtel, c'est des frais. Et donc, c'est beaucoup plus simple de le faire venir en plateau et de lui dire, on peut tout en plateau. Et donc, moi, je me bats toujours pour être sur le terrain, parce que je pense que c'est sur le terrain qu'on voit les vraies choses, en fait. On sort de ce studio, là on peut se dire plein de choses autour d'un micro, mais c'est une sorte de vie un peu contrôlée. La vraie vie, elle est dehors, et donc il faut. Alors c'est la chance aussi qu'on a maintenant, c'est que notre matériel a extrêmement changé, et donc aujourd'hui je peux même faire mon travail avec un iPhone ou un petit micro qu'on passe comme ça, voilà, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10-15 ans. Donc en fait tout ça va dans le bon sens, parce qu'en fait en vrai on peut de plus en plus être léger et facile à travailler, et donc facile à produire et à créer des rencontres.
Une autre question, Timothée ? Avez-vous un événement qui vous a marqué lors de vos tournées, à vous raconter ?
Un événement, il y en a plein, c'est très très dur de se dire ça, mais oui, j'ai des moments assez forts. Il se trouve que là, il n'y a pas très très longtemps, je suis en train de préparer un documentaire sur les 52 minutes, un documentaire, un format long, France 3 sur la transhumance, et qu'on a intitulé « Transhumance, trésor des alpages ». Et donc l'idée dans mon documentaire, c'est de mettre en avant tous ces producteurs que j'ai rencontrés depuis 15 ans et qui m'ont raconté, qui m'ont montré une certaine valeur de cette transhumance, qui est un truc qui se perd en plus. Et donc on a rencontré des chefs, on a rencontré des producteurs, et une séquence assez forte, c'est que parmi ces producteurs, il y avait une jeune femme qui s'appelle Charlotte Salah, qui est dans le Cantal, qui fait un salaire tradition, enfin en méthode salaire tradition, puisqu'elle n'a pas l'appellation. Et cette jeune femme, elle fait partie des 6 à 7 derniers producteurs à faire ce fromage de cette façon-là. Ça veut dire que c'est un fromage qui n'est fait que l'été, 4 mois de l'année, quand les vaches sont au pré, donc quand elles mangent de l'herbe fraîche. Troupeau 100% race salaire, c'est forcément du fermier, donc ça veut dire que c'est le lait d'un seul troupeau transformé à la ferme. Et ils sont plus que 6 ou 7. Le reste, ce sont des producteurs du Cantal. Il y a des très bons Cantal fermiers, mais il y a aussi beaucoup de Cantal industriels. Donc, c'est l'ancêtre du Cantal, c'est la tradition. Et il se trouve que Charlotte, il y a 5-6 ans, parce qu'on parlait beaucoup d'elle, parce que c'était la seule femme dans ce milieu très masculin, qu'il y a beaucoup de jalousie, on était en ruralité, il y avait une sorte de jalousie parce que beaucoup de médias ont parlé d'elle, il se trouve qu'elle a été déclassée. Donc, elle a perdu son label Salaire Tradition. Elle a pris une revanche parce qu'elle s'appelle Salah. Donc Charlotte Salah, elle a fait un jeu de mots, elle a appelé ça Salah Tradition, son fromage. Un beau pied de nez pour ceux qui lui ont enlevé l'appellation. Elle avait le droit d'auteur était respecté puisqu'elle ne jouait pas sur le mot salaire tradition, mais voilà. Et donc je lui dis, écoute Charlotte, toi t'es en estive, t'es vache en estive, je fais un documentaire sur la transhumance, j'aimerais qu'on aille dans, je voudrais montrer comment l'excellence de ce travail peut être aussi la clé d'une meilleure rémunération, ça veut dire que de rentrer dans des grandes tables qui rémunèrent mieux aussi le producteur. Et je dis, quel est ton restaurant le plus important, ton plus gros client, celui qui te fait le plus rêver? Et elle me dit, c'est le Louis XV à Monaco. Donc on est chez Alain Ducasse, l'endroit où Alain Ducasse, on va dire, a pris son envol, ou plutôt a été mis en orbite et est devenu le chef qu'on connaît aujourd'hui. Ça doit faire une trentaine d'années qu'il y est, quelque chose comme ça. Et donc on est au Louis XV à Monaco, dans un lieu incroyable. Vous connaissez tous Monaco, les yachts d'un côté, on se préparait pour le Grand Prix de Formule 1 le jour où on est venu tourner. Les hélicos qui passent, enfin c'est voilà, on a l'impression d'être sur Netflix. Et et en fait, je dis à Charlotte, on va y aller. Et donc Charlotte me retrouve 10 jours après, je me rends compte que ça fait 15 ans qu'elle livre cet endroit et qu'elle ne s'est jamais échappée de sa ferme pour y aller. Et donc ce moment-là a été assez émouvant parce que quand on a commencé à s'en parler et qu'elle était dans ce lieu de ce restaurant avec un maître d'hôtel qui présentait comment il servait son fromage, elle a été assez émue, elle s'est mise à avoir les larmes aux yeux parce que elle est revenue sur tout ce combat, cet engagement qu'elle a depuis 15 ans. Et je pense que ce jour-là, elle s'est dit, je fais bien, s'il y a des jours, j'ai des doutes, là, et voilà. Et donc ça, c'est un moment assez fort, parce que, voilà, j'ai encore les frissons quand j'en parle, parce que je me dis que c'est des moments un peu suspendus, qui sont montés, parce qu'en fait, elle ne serait peut-être jamais venue si je lui avais pas proposé qu'on vienne faire le tournage. Mais elle s'est forcée, et ce jour-là, elle a trouvé du plaisir, et voir un moment assez unique, Et de voir que la table d'Alain Ducasse la sert en pré-fromage avant même le plateau de fromage seul et que à chaque table on raconte son histoire de elle à Cussac dans le Cantal, elle s'en doutait pas, alors qu'elle savait qu'elle envoyait ses fromages là-bas. Donc ouais, c'est des moments très beaux pour moi où je me sens utile, en tout cas. Je me sens utile à le raconter et à le défendre.
Merci Timothée, encore une fois, Loïc. Quelqu'un aurait-il une autre question?
Vous êtes présent sur le sommet de l'élevage cette semaine? Allez-vous filmer, interroger, et pourra-t-on voir ou écouter le rendu?
Ouais, alors je suis en direct sur plein de choses, sur les réseaux sociaux, puisque j'ai la chance d'animer pendant une heure tous les jours une émission sous forme de table ronde avec des producteurs qui ont reçu des prix, les fermiers d'or, qui sont des prix qui reconnaissent les produits de qualité en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est porté par la Chambre d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça c'est sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et j'ai la chance aussi d'être en direct deux fois pour Télématin. Ce matin entre autres à 7h50 et à 9h50 ce matin. Et puis vendredi on sera aussi en direct de Saint-Nectaire et des caves de Saint-Nectaire pour mettre en avant le Saint-Nectaire, une appellation forte, prend de plus en plus de place dans le top 3 des fromages qui cartonnent le plus en appellation d'origine protégée en France. Donc ouais, c'est plutôt chouette, c'est un lieu assez chouette, le sommet de l'élevage, et qui est plutôt intéressant parce que il a une envergure nationale voire internationale, et pour une fois c'est pas un événement qui se passe à Paris, qui se passe chez nous, donc faut en profiter en fait.
Merci Sarah. Lucie, pour une avant-dernière question.
Avez-vous d'autres projets pour l'avenir?
J'ai plein de projets, déjà j'ai ce documentaire sur la transhumance qu'il faut que j'essaye de terminer, on est en train de commencer le montage, donc ça c'est le plus laborieux parce qu'il faut choisir les moments, les meilleurs moments qu'on a eu dans nos rencontres, parce que tout ne tient pas en 52 minutes. Plein d'autres projets, oui, si. Alors j'ai un projet que j'adorerais, c'est de développer un support sur les réseaux ou sur les médias, mais quelque chose à moi, c'est-à-dire qui ne soit pas forcément charté par une durée ou par des contraintes que la plupart de nos médias et qui sont importants, ces contraintes, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ou les web TV maintenant nous permettent d'avoir des supports de la durée qu'on veut. C'est le cas même là ce qu'on est en train de faire par exemple, parce que dans une radio classique vous avez une script qui chronomètre, un réalisateur qui regarde et quelqu'un qui fait des signes pour vous dire il faut faire les réponses plus courtes ou il faut aller plus vite ou voilà, il faut envoyer une pub parce que on a une régie pub qui a commercialisé et qui a 8 heures pile à signer les contrats pour envoyer une pub. Bref, il y a plein de contraintes comme ça qui sont ce qui nous nourrit et ce qui fait vivre nos médias, mais qui fait que on a une sorte de carcan, et j'aimerais bien un jour le casser, ce carcan, et pouvoir avoir un format plus roots, plus décalé, plus voilà.
Et pour finir, une question qui nous intéresse également en tant qu'élève en lycée hôtelier. Quel est votre plat préféré?
C'est dur ça. Hein. Mais le plat préféré, ça serait soit les rognons, soit un foie de veau au vinaigre de Xérès.
Ok.
Voilà.
Spécial.
ouais, ou les riz de veau aussi. Okay. Je suis très à bas en fait.
Okay.
Et le disco aussi, j'aime bien.
Merci beaucoup Loïc Ballet pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à nos auditeurs pour leur écoute et à très bientôt sur Radio Cham.
Cham au fourneau,
ça va à coco.
Cham au fourneau.
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 Ça va à gogo.